Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditeurs, bonjour, Jean-Jacques Chavanne avec vous pour cette nouvelle chronique de la Ligue des droits de l'homme consacrée aux nouvelles technologies de la surveillance qui sont évoquées dans le projet de loi Sécurité globale. Avec moi pour en parler, Jean Maupoint de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Jean, est-ce qu'en l'occurrence...
Bonjour.
Est-ce qu'en l'occurrence, progrès technologique rime avec progrès humain ?
Pas forcément, il n'y a aucun lien direct. Je vais prendre par exemple... deux exemples. Quand on a inventé les drones, on trouvait que c'était vachement bien, c'était un jeu, on pouvait aller voir ce qui se passait dans notre maison, et ça permettait de découvrir des blessés dans des fossés. C'était super. La reconnaissance faciale, par exemple, on trouve que c'est bien pratique pour entrer dans des immeubles. Par exemple, à la Défense, au lieu de passer devant une série de vigiles, déposer sa carte d'identité, etc., on plaque son œil, une reconnaissance faciale ou humaine, et on dit « ouais, putain, c'est super, le progrès s'avance ». Or, on voit bien que aussi bien les drones que les problèmes de logiciels de reconnaissance faciale ne sont pas utilisés pour le progrès humain, mais qui sont utilisés, détournés, à des fins, la plupart du temps, de sécurité ou de malveillance.
Et est-ce que vous trouvez donc qu'à travers la nouvelle loi Sécurité globale, on va vers ce type de surveillance ?
Eh bien, complètement, parce que le projet de loi Sécurité globale, qui quand même était au départ une proposition de loi rédigée par l'ancien patron du RAID, député LRM, c'était une proposition de loi rédigée par la police, en quelque sorte, qui permettait, comme proposition de loi, de faire l'impasse, de faire l'économie, de passer devant le Conseil d'État, mais qui a été tellement largement défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'en fait, ce n'est pas une proposition de loi, c'est un véritable projet de loi. Mais cette loi, dont on peut revenir sur les articles célèbres, le 21 sur la caméra piéton des forces de police, l'article 22 sur les drones, et l'article 24 sur les rediffusions d'images, on peut revenir là-dessus, mais ce projet de loi Sécurité globale, il faut bien voir, qui s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus large de sécurité globale du territoire. C'est un tout petit bout de ce que le ministre appelle le continuum de sécurité.
Le continuum de sécurité, c'est-à-dire ?
Le continuum de sécurité, c'est-à-dire que on considère que l'ensemble des polices, la police nationale, les polices municipales, les polices privées, les vigiles, etc., doivent garantir, c'est comme ça que c'est présenté, la sécurité. Il faut que tout ça, ça soit cohérent. Et donc, ce qui rend cohérent, par exemple, c'est ce qu'on peut voir dans ce qui a été publié, le livre blanc de la police. Donc ça,
qu'est-ce que ce livre blanc ?
Alors, un livre blanc, c'est quelque chose qui est rédigé par une administration. C'est un projet d'avenir. Une association peut très bien rédiger un livre blanc en disant, ben voilà mes objectifs pour la moyenne période, pour le long terme. En soi, un livre blanc, c'est quelque chose. Ça écrit les objectifs à moyen et long terme en l'occurrence de l'administration, donc là, du ministère de l'Intérieur et des programmes de sécurité. C'est quelque chose qui n'a aucune valeur juridique, mais ça traduit les objectifs de cette administration. Après, on a un autre type de dispositif qui est, par exemple, le schéma national de maintien de l'ordre, qui là est un document un peu plus officiel, qui est écrit par le ministre de l'Intérieur, qui ne passe pas au Parlement, parce que c'est aussi un espèce de document interne. Et puis enfin, pour faire un peu démocratique, on a une partie du dispositif qui passe par les lois. La loi, par exemple, la loi Sécurité globale. Donc c'est un petit bout du dispositif qui passe par la loi. Il y en a d'autres qui passent pas. Par exemple, il y a 3 jours, les fameux décrets... les 3 décrets concernant la police, la gendarmerie, qui complète le dispositif de fichage massif des militants politiques. Donc on voit bien qu'il y a toute une gamme, il n'y a pas que la loi sécurité globale dont on parle, qui a été fortement médiatisée, mais il n'y a pas que celle-là. La loi...
Ça fait partie d'un ensemble.
Ça fait partie d'un ensemble.
Pour revenir aux drones et à tout ce virage technologique qui va être abordé donc en termes de sécurité, est-ce qu'il n'y a pas également quelque chose de séduisant pour le public auquel il s'adresse?
Alors, le caractère séduisant, il a été initié il y a une dizaine ou même une vingtaine d'années avec ce qu'on avait appelé au début les caméras de vidéosurveillance. C'était sympa, ça a été présenté comme sympa au nom de la sécurité. Mais les caméras de vidéosurveillance, il y a quand même eu des gens qui se sont inquiétés et qui ont mis des barrières. C'est-à-dire que normalement, il y avait des petites pancartes sympathiques qui disaient que quand vous entrez dans un espace surveillé, c'était pas marqué « Souriez, vous êtes filmé », mais pas loin. Donc il y avait une indication, on pouvait pas surveiller les gens sans les avertir qu'ils étaient surveillés. Donc ça, c'était le ce qui était au départ il y a une vingtaine d'années. Maintenant, avec le dispositif, on a franchi un cap, c'est-à-dire que... On organise la surveillance massive, la surveillance de masse, avec des drones ou tout autre système, mais une surveillance de masse invisible. C'est-à-dire que...
Est-ce que c'est légal ?
Ben, la légalité des caméras de vidéosurveillance, elles ont été finies par être légales dans la mesure où on disait mais il fallait avertir. Donc là, on est toujours dans un système où, actuellement... filmer les gens sans les avertir est illégal. Mais il faut faire attention à ce que ça veut dire légal. Légal, c'est quelque chose qui est défini par la loi. Or, la loi, elle évolue et elle change. Donc on peut très bien... La loi peut malheureusement très bien dire, même s'il y a la CNIL ou des organisations comme la Ligue des droits de l'homme s'offusquent et résistent, la loi peut très bien évoluer. On peut très bien, malheureusement, à un moment de dire « alors c'est peut-être pas constitutionnel, c'est peut-être pas ceci, c'est peut-être pas cela », mais la loi, ça se change. Et le problème, c'est que justement, on fait des lois actuellement qui peuvent très bien être utilisées par des gouvernements postérieurs qui viendront après, puisqu'ils auront tous les outils pour s'en servir comme il faut. Donc, c'est pour ça que les lois, faut surveiller en disant oui, mais ça risque rien. Ben si, ça risque, parce que les lois peuvent être utilisées par des gouvernements qui sont pas ceux qu'on voudrait qu'ils soient.
D'accord. Simplement, je vais en revenir à cette séduction de la surveillance. Est-ce que la sécurité peut devenir quelque chose d'imprégner donc la mentalité des Français et faire oublier donc la liberté ?
Ben absolument, parce que actuellement sur quel est le discours qui est utilisé, que ce soit en période de Covid ou en période de sécurité avec les manifestations qui peuvent dégénérer, c'est de dire vous abandonnez un petit bout de liberté, mais par contre on augmente votre sécurité. Donc c'est ça le discours, c'est sécurité contre liberté. Et c'est présenté un petit peu comme ça. Donc
oui, sécurité, donc on va vers un monde où donc les gens vont avoir une sorte de consentement donc à leur non-liberté. C'est ce qu'on cherche. Est-ce que c'est ce qu'on cherche ?
Ben c'est ce qui se produit en tout cas. C'est ce qu'on cherche, oui, puisque de toute façon il n'y a aucune loi qui est présentée en disant on va vous supprimer les libertés, gna gna gna. C'est toujours au nom de quelque chose. Donc c'est au nom de la sécurité. C'est au nom de la sécurité qu'on va vous filmer intégralement en manifestation avec des drones. C'est au nom de la sécurité qu'on va établir ou conforter les décrets sur les fichiers, sur le fichage généralisé des manifestants et de leurs familles. Donc sur l'histoire des décrets, c'est intéressant parce que avant jusqu'à maintenant, les gens qui étaient ramassés en manif, ils étaient fichés, mais par rapport à une participation active ou une participation à une manifestation. Dans le système des décrets qui sont renforcer les décrets police et les décrets gendarmerie. C'est pas simplement le fait de participer à une manifestation, c'est ce qui est le fichage jusqu'à maintenant, il concernait des personnes physiques. Maintenant, le fichage, il va s'élargir aux personnalités morales. C'est-à-dire que des associations seront supposées dangereuses et donc la participation ou l'adhésion à des organisations identifiées comme potentiellement dangereuses, et on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est ça l'extension des fichiers de police et de gendarmerie au fichage de personnes morales, c'est-à-dire les associations, les organisations syndicales, les organisations politiques, les ZAD, toutes ces choses-là.
Est-ce que vous voyez là une politique progressive, si on n'y fait pas attention, d'abandon de ces droits donc en démocratie ?
Ben oui, bien sûr, parce qu'on va bientôt plus avoir le droit de rien faire. Et l'idée de dire que c'est sécurité contre liberté, c'est pas simplement un discours du gouvernement, c'est une idée qui se propage dans la tête des gens et dans les institutions. Par exemple, très concrètement, là, il y avait une manifestation qui était prévue le samedi 22.
Le samedi 12 décembre.
Décembre. Oui. Et les organisateurs avaient envisagé de faire une manifestation pour ne pas rester toujours devant la préfecture. Donc, bon. Et les contacts avec la préfecture ont montré que le discours c'était non, mais c'est pas le moment, ça va perturber les commerçants, il y a des risques, etc. Et donc, l'idée c'est un petit peu de la part de la préfecture de dire. Restez tranquille à un endroit, ne venez pas prendre des risques de sécurité, les commerçants vont pas aimer, donc à cause du Covid, à cause de ceci, cela. Et donc, dans l'idée des gens et des organisateurs, le discours, c'est celui-là aussi, c'est de dire, non, mais c'est dangereux, on peut pas, on va... Ça, c'est rentré dans la tête de certaines organisations, puisque là c'était un collectif, c'est rentré dans la tête de certaines organisations en disant non, on manifeste pas parce que on va se faire mal voir. Donc, voilà.
Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant des forces de l'ordre ?
Ce que j'attends des forces de l'ordre ?
C'est une vaste question.
C'est une vaste question qui est difficile à répondre, parce que par définition, les forces de l'ordre sont là pour maintenir l'ordre. Donc il y a des questions qui se disent, est-ce qu'il peut y avoir des forces de l'ordre républicaines ou démocratiques ? C'est une connerie monumentale, on peut rêver, mais les forces de l'ordre sont là pour maintenir l'ordre. Donc c'est tout, et l'ordre il est donné par qui ? Il est donné par les autorités qu'on estime légitimes, ou les autorités élues ou en poste. Donc, quelles sont les autorités aujourd'hui, quelles seront les autorités demain, et de quels dispositifs législatifs disposent-elles pour donner des ordres aux forces de police ?
Si vous voulez rajouter un mot, allez-y.
Non, c'est simplement pour dire que, pour se renseigner un peu plus sur les questions de liberté, de manifester sur la sécurité, il y a trois sites internet sur lesquels on peut consulter. Le site de la LDH France, bien entendu. Le site de la Quadrature du Net, qui est un peu spécialisé dans les produits plutôt informatiques. Et puis un site plus généraliste, qui est aussi écologique, le site Reporter, REPOTE2RE, comme la Terre. Ces trois sites-là font un peu le tour général
du sujet. Merci d'avoir ajouté ces précisions qui seront sans doute utiles aux auditeurs. À bientôt, chers auditeurs.